que les Basilidiens, hérétiques du second siècle, vénéraient comme le suprême démiurge ayant envoyé le Christ sur terre. Andreas ne put s'empêcher de penser brièvement au rapport que ce symbole de la connaissance entretenait avec le gnosticisme. Mais pour l'heure, il se contenta de mémoriser la posture du démon. Car en effet, la tête de celui-ci figurait un coq, symbolisant le soleil, ses jambes deux serpents. Dans la main droite, il tenait un bouclier, dans la gauche un fouet, et à la taille, il portait un tablier. Ainsi, en un seul dessin, étaient rassemblés les cinq symboles portés par les statues de la pièce où Robin était enfermé. Et tout, enfin, prenait sens. Alors qu'il venait de se remettre en route vers le bout du couloir, la bougie d'Andreas s'éteignit. Et elle était à présent trop petite pour qu'il pût la rallumer sans se brûler les doigts. Il continua néanmoins son chemin et rejoignit prestement Robin tout au bout du tunnel. « Tu es là, mon garçon ?» demanda l'apothicaire en cherchant dans la plus totale obscurité la petite ouverture dans le bloc de granit.
« Oui, maître. Dites-moi que vous avez trouvé. »«
Lève-toi, Robin. Va à la statue qui porte un soleil et mets celui-ci dans la position la plus haute qui soit. » L'apprenti s'exécuta, et l'apothicaire l'entendit revenir. Ainsi, l'obligeant à faire moult aller-retour, il donna ses instructions au jeune homme, afin qu'il mît le bouclier à dextre, le fouet à sénestre et le serpent vers le bas. « Parfait. Il ne reste plus que le tablier, mon garçon. Un tablier se porte devant. J'en déduis qu'il faut que tu le tires vers l'avant.
J'y vais. »
Et en effet, Robin tira sur le linge que portait la cinquième statue, et celui-ci glissa vers l'avant. Andreas, le corps tendu dans l'obscurité, resta immobile, aux aguets, certain que la magie allait opérer. Mais il ne se passa rien. Et quand le silence eut duré trop longtemps, Robin revint près du mur.
« Il ne se passe rien, maître !»«
Je vois bien !» répliqua Andreas agacé. « J'ai dû me tromper quelque part. Pourtant, c'est bien ainsi que les cinq symboles sont disposés sur l'Abraxas.
À moins que... Quoi ?
Tout dépend de si l'on se met à la place de l'Abraxas lui-même ou d'un observateur. Car alors, la droite devient la gauche et la gauche devient la droite. Interverti, mon garçon, va mettre le bouclier à senestre et le fouet à dextre.
Oui, maître.
Le bruit de la chaîne s'éloigna, puis Andreas perçut le son que faisaient les statues quand on les déplaçait. L'apothicaire sentit l'abattement de son cœur s'accélérer. Cette fois-ci, il fallait absolument que cela fonctionne. Il n'avait plus de bougie. Robin était sans doute en fort mauvais état, et si cette option n'était pas la bonne, il ne savait plus dans quelle direction chercher. Comme il ne se passait toujours rien, Andreas sentit un instant une vague de désespoir profond l'envahir. Il crut qu'il allait s'effondrer. Quand soudain, un craquement se fit entendre, puis un autre, suivi par un lourd bruit de chaîne. Lentement, le mur se mit à glisser vers la droite, laissant la lumière de la pièce voisine se glisser dans le souterrain, et l'apothicaire se précipita dans l'ouverture pour prendre dans ses bras Robin, qu'il trouva le corps couvert d'horribles blessures et la mine bien pâle. Chapitre 86. Le lecteur se souvient peut-être d'un personnage que nous avons eu l'occasion de présenter brièvement au début de ce récit. Cet échevin du nom d'Étienne Bourdon, qui avait tenté d'expulser Magdala et les fillettes qui travaillaient avec elle dans sa petite maison de la rue Saint-Denis. Il se souvient sans doute aussi que l'homme n'était pas des plus accommodants et qu'il nourrissait à l'égard d'Andreas quelque ancienne inimitié. Or, ce fameux Bourdon va de nouveau jouer quelque rôle dans l'histoire que nous nous efforçons de relater ici fidèlement. Car en effet, ce soir-là, le soir où Andreas délivra Robin de la commanderie Saint-Marc, c'est à ce sinistre échevin que Charles de Valois rendit visite. À la nuit tombante, le comte entra seul au parloir aux bourgeois, qui était en ce temps situé entre l'église Saint-Leufroy et le Grand Châtelet, et demanda à être reçu non pas par le prévôt des marchands, mais bien par l'un de ses échevins, en la personne d'Étienne Bourdon, ce qui permit à certains de deviner qu'il se tramait quelque chose, mais nul n'eût su dire quoi.
« J'ai besoin, Étienne, que vous me rendiez un petit service. »
L'échevin, fort impressionné par la